L'émission ce soir, cette fois, je vais commencer par les présentations pour ne rien omettre.
Bien.
Edith.
Bonsoir.
Françoise.
Bonsoir.
Ronan, qui est perdu dans ses boutons derrière la console.
Bon, super c'est bon, technicien. Voilà.
Et moi-même, Didier. Donc ce soir, comme à chaque fois, un ordre du jour et un plat pour le dîner qui est bien copieux. Donc on va vous parler des élections, mais oui, on fera pas de politique, mais on va vous parler des élections. Amnesty, bien sûr, prend parti, entre guillemets, au niveau des élections, du moins à interroger les candidats. C'est pas le bon terme, exactement.
Voilà, leur a demandé leur position par rapport aux droits de l'homme.
Et puis nous allons vous parler du commerce du traité des armes. C'est Edith qui va vous en parler, donc je ne vous en dis rien pour l'instant. Elle va vous expliquer ce en quoi ça consiste.
Rassurez-vous, on ne va pas acheter d'armes.
Non, au contraire, c'est même pour faire un petit peu l'inverse en fait.
Donc on va en vendre ?
On va vous parler aussi du comité de soutien pour la famille Bassane. Vous avez sans doute entendu parler dans les médias locaux, dans la presse, etc., de ce comité de soutien auquel Amnesty Évreux participe. Donc on va vous faire part de l'actualité passée et présente de ce comité de soutien et de la situation de cette famille. Ça touche le problème des réfugiés, dont on va vous dire également un petit mot, parce qu'Amnesty relance une nouvelle campagne par rapport aux droits des réfugiés en France. Et puis, on va vous parler aussi de l'actualité locale.
De la nôtre.
Le 15 mai, on va vous parler d'un rendez-vous important au Ciné Zénith. Vous en saurez plus tout à l'heure aussi. Et puis, Françoise va vous parler. Bah, je ne sais pas ce qu'elle va dire, Françoise, en fait. Donc, elle vous le dira elle-même.
Vous tiendrez au courant du marathon.
Du marathon des signatures.
Est-ce qu'on va courir ?
Et puis, oui.
Mais oui. Marathon, mais c'est autre chose. Allez.
On court après nos droits et on court après les bonnes nouvelles à Amnesty International.
Et on travaille tout le temps.
Voilà. Et puis, il y a également des bonnes nouvelles, des actions urgentes.
Et moi, je dis rien. Alors.
Qui est-ce qui dit les bonnes nouvelles, à votre avis ?
Allez. Si, il y a Ronan, le spécialiste bonnes nouvelles et des actions urgentes, qui va vous en parler tout à l'heure pour nous aider à agir avec nous pour la défense des droits humains. Voilà. Donc, premier point à propos duquel je voulais vous parler, qui est donc l'actualité à propos des élections. Alors, ce qu'a fait Amnesty International France au niveau des élections présidentielles, et la même chose sera reprise au niveau des groupes, nous le ferons pour les législatives au mois de juin, ici à Évreux, c'est d'envoyer un questionnaire dont je vous avais déjà parlé, donc dans une précédente émission, je ne vais pas reprendre le détail. Hein, si vous écoutez les podcasts des émissions, vous allez le retrouver.
Et vous pouvez le retrouver sur le site d'Amnesty.
D'Amnesty aussi, bien sûr, ce questionnaire sur les 10 points envoyés aux candidats, 10 points qui touchent évidemment les droits humains. Donc le questionnaire a été envoyé aux 10 candidats qui se sont présentés au premier tour. Les points traitent de façon très générale de la lutte contre la traite des êtres humains, de la responsabilité sociale des entreprises, du contrôle de la garde à vue, des exportations d'armes, de la lutte contre les discriminations et de la lutte contre la violence faite aux femmes, etc. À l'heure actuelle, juste avant le premier tour des présidentielles, le 13 avril, Amnesty France a publié sur son site les réponses obtenues. Sur les 10 questionnaires envoyés aux 10 candidats, 8 avaient répondu. 2, malgré les relances, n'avaient absolument rien répondu. Donc on peut supposer qu'ils ne se sentent pas concernés par ces 10 questions fondamentalement importantes. Les deux candidats qui n'ont pas répondu sont Marine Le Pen et Nicolas Sarkozy. Donc, dont acte. Les autres candidats ont répondu, pour une partie d'entre eux, je vais peut-être vous reprendre effectivement la liste, pour une partie d'entre eux, c'est-à-dire, je vais vous retrouver ça tout de suite sur ma feuille.
On va pouvoir t'aider, c'est-à-dire que certains ont donné leur accord à chaque question et d'autres ont modulé leur accord.
Voilà, donc ont répondu à l'intégralité des questions en soutenant les positions d'Amnesty sur les 10 points soulevés, Eva Joly, Jean-Luc Mélenchon et Philippe Poutou. Ont répondu également sur les 10 points, mais en modulant leurs réponses et en faisant des courriers explicatifs. Nathalie Arthaud, François Bayrou et François Hollande. Sur le site, les courriers d'ailleurs d'explicatifs qui ont été joints aux réponses des candidats. Vous pouvez les lire. N'a répondu que sur 5 points sur 10, Nicolas Dupont-Aignan. Jacques Cheminade s'est excusé de ne pouvoir répondre faute de temps et a envoyé son programme pour y trouver des réponses concernant les 5 recommandations. Et donc, les deux derniers ont brillé par leur silence, Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen. Voilà. Donc, nous allons reprendre ce questionnaire, le même questionnaire pour les prochaines législatives au mois de juin. On va l'envoyer à tous les candidats et l'ensemble des groupes enverront les réponses obtenues ou non obtenues par les candidats à Paris, qui fera une synthèse de tout ça. Bon, c'est le but de cette action, c'est évidemment de continuer à sensibiliser les responsables politiques par rapport à ces questions de droits fondamentaux, de la défense des droits fondamentaux. Et on sait très bien que c'est dans un pays comme la France, des questions qui deviennent de plus en plus fondamentales, sachant qu'il y a un certain courant, disons, de racisme ambiant, d'intolérance, de rejet de l'autre qui se font savoir, qui se font connaître, qui se font de plus en plus jour ouvertement et qui sont relayés par un certain nombre de leaders politiques. Et donc c'est une situation qui est assez inquiétante, qui doit nous garder en éveil et qui doit bien nous faire prendre conscience que les droits humains obtenus au fil de l'histoire dans les pays démocratiques ne sont jamais acquis définitivement, mais sont toujours un trésor à sauvegarder, à approfondir et à améliorer. Voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport à ça. C'est le but de notre action.
Voilà, et on peut dire que nous, en tant que groupe Amnesty d'Evreux, et nos politiques les plus proches que l'on sollicite ou à qui on va demander de poser des questions au gouvernement ou d'impulser sur des lois, ce sont les députés, les sénateurs, le maire, et qu'on est très vigilants et qu'on a envie qu'ils soient au courant de nos positions et qu'ils nous donnent la leur.
Voilà, tout à fait. Donc, si vous voulez en savoir plus, et c'est important d'en savoir plus, www.amnesty.fr pour avoir ce questionnaire, les questions, les réponses, également le petit texte d'explication et de commentaires qui a été fait par Amnesty. Encore une fois, effectivement, je me suis mal exprimé tout à l'heure. Amnesty n'appelle pas à voter pour qui que ce soit, mais Amnesty constate simplement la prise de position de chacun comme étant un facteur, un élément important pour éclairer le vote. Voilà. Edith voulait nous parler, je crois, du traité des armes.
Oui, mais là, je veux plus vous parler.
Qu'est-ce dont tu veux plus nous parler?
Non, je veux plus vous parler parce que voilà,
Ronan,
il va nous proposer une autre façon d'aborder le traité des armes. Donc, en premier, Ronan, et après, peut-être moi.
Avec assez de balles pour tuer le double de la population mondiale. Tuer le double de la population mondiale. Pour les tirer, on fabrique 8 millions d'armes à feu. Et chaque jour, au moins 1500 personnes sont tuées lors de violences et de conflits armés. Le commerce des armes est un commerce meurtrier mais florissant. On estime que chaque année, le commerce des armes génère entre 45 et 60 milliards de dollars. Ces armes atterrissent souvent entre les mains de ceux qui tuent, terrorisent ou répriment violemment leur propre peuple. Lors des derniers conflits, plus de 80% des victimes étaient des civils. Le commerce des armes est l'un des plus corrompus au monde. Il engendre d'innombrables atrocités et attise les conflits et la pauvreté. Une grande partie des armes vendues par les gouvernements occidentaux a été utilisée par des dictatures militaires ou des gouvernements corrompus. En 2008, le Royaume-Uni a vendu des munitions et des véhicules blindés de maintien de l'ordre à la Libye. Les grenades lacrymogènes employées par les forces de sécurité égyptiennes contre leurs propres citoyens en novembre 2011 ont été fournies par les États-Unis et, pour certaines, fabriquées au Royaume-Uni. Des traités régissent le commerce de nombreux produits à l'international, même celui des bananes et des os de dinosaures, mais pas celui des armes à feu et des balles. Le but d'un traité sur le commerce des armes est d'établir un ensemble de normes internationales communes afin de régir le commerce de toutes les armes classiques et de mettre fin aux ventes d'armes là où il existe un risque substantiel de violation grave des droits humains. Tout cela semble cohérent. Alors pourquoi un tel traité n'est-il pas déjà en vigueur? La plupart des pays soutiennent l'idée d'un traité, mais certains souhaitent l'affaiblir. La Chine, l'Inde et le Pakistan refusent qu'il concerne les armes légères et de petit calibre, telles que les mitrailleuses et les fusils d'assaut. Les États-Unis veulent même en exclure les munitions. Mais pour que ce traité soit efficace, il doit englober une grande variété d'armes, d'équipements, de transferts, et garantir le respect des droits humains. Pendant la durée de cette vidéo, 3 personnes ont été tuées et jusqu'à 30 ont été blessées par des armes classiques. Le monde a besoin d'un traité international sur le commerce des armes.
Alors, vous voyez ce que Ronan nous a enregistré encore ? Hein ? Un petit clip. Alors, il était vidéo, c'est pour ça qu'il y avait des petits bruits bizarres. Vous inquiétez pas, c'est pas nous qui nous...
Nous ne sommes pas défoulés
pendant le clip, mais simplement, c'était les armes.
Les armes qu'on
en a. Hein, c'était une mise en scène sur les armes. Donc,
mais allez sur le site, autrement, vous pourrez le voir en vidéo.
Voilà, donc, ce qu'on va vous parler un peu, c'est effectivement un travail qu'on va commencer, qu'on a déjà commencé il y a quelques années sur le traité des armes, donc TCA, hein, traité contre les armes. Alors, je vous fais juste un petit rappel historique. En 1997, des lauréats des prix Nobel de la paix réclament un code de conduite sur le transfert international des armes. Donc, je peux dire, par exemple, le prix Nobel Oscar Arias déclare « Les dirigeants locaux, régionaux et mondiaux doivent accepter le fait que nous ne pouvons plus laisser le marché libre diriger le commerce international des armes. Au contraire, il nous faut convenir que, bien souvent, le commerce des armes est l'ami des dictateurs et l'ennemi du peuple. Il est temps de faire un choix entre les vies humaines et les armes. » Alors, octobre 2003, lancement de la campagne Contrôle Armes. Oh, alors, ceux qui sont les plus vieux, on va dire, ça doit leur rappeler quelque chose. On a eu les affiches
mais
Contrôle
Armes.
Mais
oui,
mais
oui.
Les photos.
Voilà. Alors, les photos, c'est après. C'est 2006.
Ah, mais, je pensais que c'était en 2003.
Voilà. 2006, qui se passe déjà. Donc, c'est déjà positif parce qu'au début, ce ne sont que des gens qui parlent. En 2006, une écrasante majorité d'États membres de l'ONU votent pour la première fois en faveur du processus onusien d'élaboration du traité contre les armes. Donc là, on commence à réfléchir, pourquoi pas, 150 États, c'est quand même pas mal. Et là, effectivement, nous, pour Amnesty, on fait une pétition 1 million de visages. Je ne sais pas si vous voyez, Lilian Thuram, l'équipe de foot à ce moment-là aussi, qui a, on va dire, sponsorisé cette campagne. Donc, en 2009, le principe du traité contre les armes est définitivement validé par 151 États, dont les États-Unis. C'était celui-là qui manquait en 2006. Et les États-Unis étaient jusque-là opposés au processus. Une vingtaine d'États, dont la Russie, la Chine, l'Égypte et encore l'Inde, se sont systématiquement abstenus. Donc voilà le contexte où ça en est. Et là, on sait qu'en juillet 2012, il va y avoir une conférence finale pour, on espère, finaliser et avoir un réel traité. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un traité international du commerce des armes ? Alors, la petite vidéo vous a donné déjà des chiffres. Je vous en dis quand même parce que faut bien les écouter parce que c'est quand même hyper important et c'est tellement, tellement affreux. Donc il y a 875 millions d'armes à feu en libre circulation dans le monde. Dans ces armes, il y a près de 100 millions de Kalachnikov. Il s'agit d'armes à feu la plus répandue dans le monde et il y a 8 millions d'armes à feu produites chaque année.
12 milliards de balles produites chaque année. Chaque jour sont fabriquées assez de munitions pour tuer deux fois chaque individu de la planète.
Alors, les armes, c'est aussi le recours aux enfants soldats. En 2011, il y avait au moins 14 pays en situation de conflit armé dont les parties utilisent les enfants, tuent ou mutilent des enfants ou commettent des viols ou d'autres formes de violences sexuelles sur les enfants. Ça vient du secrétariat général aux Nations Unies. Leur nombre d'enfants soldats est estimé environ à 250 000.
Déplacement forcé de population. On estime que dans le monde, 43,3 millions de personnes ont été déplacées de force en raison d'un conflit armé et de persécutions à la fin de l'année 2010. En 2011, de nouveaux déplacements de grande ampleur se sont produits lorsque des conflits ont éclaté ou se sont aggravés en Libye, Côte d'Ivoire, Somalie et Soudan.
Alors les dommages causés par les armes sont synonymes de destruction des infrastructures. En plus de tuer ou de nuire aux populations, les armes occasionnent la destruction des infrastructures vitales sur lesquelles les gens s'appuient au quotidien pour assurer leur subsistance. L'accès à la nourriture, à l'eau, à un foyer. Ces destructions peuvent entraîner des phénomènes de pauvreté, d'immigration.
La hausse des dépenses militaires et l'importance des transferts des armes. Le total des dépenses militaires mondiales en 2009 est estimé à 1531 milliards de dollars, soit une augmentation de 6% par rapport à 2008 et de 49% depuis 2000. En 2010, le volume mondial des exportations d'armes représente 70 milliards d'euros.
Il y a plein d'objets qui sont extrêmement régulés. Alors, on a des exemples là, les bananes, les iPods sont extrêmement régulés dans leur commerce, mais alors les armes, absolument pas. Les faiblesses et les lacunes des mécanismes de contrôle existants, tant au niveau national, régional que multilatéral, ont permis aux États et aux acteurs de continuer leur commerce irresponsable en toute impunité. Donc, ce traité est quand même vraiment très, très important. Alors, oui, voilà, Françoise me fait un geste. Oula, je me suis arrêtée. Mais non, je vais un peu continuer quand même. Donc, Donc là, Amnesty est vraiment partie prenante sur ce traité, mais elle n'est pas seule. Il y a aussi deux autres associations, parce que ça fait partie d'un collectif. Il y a le CCFD Terre Solidaire et Oxfam France. Donc voilà, c'est tout un tas de militants qui va pouvoir faire signer autour de lui et faire connaître ce traité. Donc ce que je voudrais quand même aussi redire, c'est un petit peu comment est-ce qu'on souhaite ce traité, même si on en a parlé dans le clip. Donc, on voudrait un traité pour sauver les vies. Pour être efficace, ce traité devra couvrir tous les types d'armements classiques et les munitions. Ah, vous avez entendu dans le clip qu'il y a des pays qui voudraient bien enlever les petites armes, petites munitions, on n'en parlerait pas, on ferait ça discrètement, quoi. Il y a aussi le matériel dont l'utilisation peut être potentiellement meurtrière dans le cadre d'opérations militaires ou de maintien de l'ordre. Les révolutions arabes, notamment, ont démontré l'importance de voir des équipements de sécurité intérieure intégrés dans le champ du commerce des armes. À Bahreïn, lors des événements meurtriers en février 2011, entre parenthèses, Bahreïn, ça continue. Hein.
Ça bouge en ce moment.
Il y a toujours des événements. Et ben à Bahreïn, des grenades de fabrication française ont été identifiées. Tous les types de transferts internationaux, les importations, les exportations, les transits, les transactions internationales, ventes, dons, ainsi que toutes les activités, transport, intermédiation, facilitant ces derniers, devront être contrôlés pour que les différentes responsabilités concourent à la réalisation du transfert soient clairement établies. Alors, voilà, en clair, il faut absolument qu'il y ait vraiment, vraiment un contrôle. Chaque transfert d'armes doit être évalué par les autorités nationales sur la base d'une règle d'or. Non, ce n'est pas celle des finances, c'est une autre règle d'or inscrite au cœur du traité. Celle-ci visera à empêcher tout transfert dès lors qu'il existera un risque substantiel que l'acquisition ou l'utilisation des armes facilite des violations graves des droits humains, du droit international humanitaire ou sape le développement économique et social.
Il y a du vent.
Il y a du vent. Mince, oui. C'est bizarre, il se passe des choses. Bon, alors on revient à des choses. Il y en a encore un tout petit peu, puis après, allez, on fera la pause musicale. Donc, il faut quand même dire que quand on parle des militants, eh ben, ce processus pour en arriver en juillet 2012 à, on espère, une signature d'un traité, c'est vraiment les militants, c'est vraiment les sympathisants, c'est vraiment des hommes comme les prix Nobel qui ont fait qu'il y a eu une prise de conscience et que les politiques ont été forcés un peu, par rapport, bon maintenant ils sont partants, mais un peu forcés de se réunir et de réfléchir sur ça. Et il y a aussi les pays du Sud, ceux dont les populations civiles sont le plus directement affectées. Et c'est grâce à toute cette pression que les Nations Unies ont lancé ce processus. Alors la France, vous allez me dire, bah oui, la France, c'est un exportateur d'armes, c'est le quatrième. Jusqu'à présent, elle est partie prenante pour que les choses évoluent positivement. Mais il va falloir aussi qu'on continue notre surveillance. Et il y a une pétition en ligne à signer et Amnesty va mettre pendant 100 jours le maximum, donc avant le mois de juillet, sur ce texte.
Il y a un compteur sur le site.
Il y a un compteur avec les gens qui signent la pétition,
non,
on nous dit.
Non, un compteur avec le nombre de jours qui reste.
Ah, le nombre de jours, voilà. Mais il doit y avoir le nombre de pétitions aussi à côté.
Ah oui, tout à fait.
Parce que c'est la dernière ligne droite. Rien n'est encore joué. La France doit pousser pour ce que soit adopté le traité le plus ambitieux possible. Il doit dépasser les intérêts uniquement commerciaux des États et permettre effectivement de sauver les vies. Les événements sanglants là, qui sont passés au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, témoignent de cette impérieuse nécessité. Voilà. Donc, allez signer, on va vous en parler, 100 jours, et en juillet, rendez-vous pour voir ce qu'ils vont faire tous nos États à l'ONU.
Un petit commentaire pour compléter ce que tu viens de dire, Edith, par rapport à l'actualité immédiate, ce qui se passe aussi en Syrie, on s'est dit qu'on est tous impuissants par rapport à ce qui s'y passe, un traité comme le traité du commerce des armes permettrait effectivement d'éviter une partie de ce qui s'y passe, parce qu'on sait très bien que le trafic d'armes permet à l'armée syrienne de massacrer son propre peuple, donc, parce qu'il s'agit bien de ça là-bas. Donc effectivement, ça permettrait de limiter au moins en partie les, entre guillemets, les dégâts, si on peut dire ça comme ça. Il y a un communiqué que j'ai reçu aujourd'hui, moi, d'Amnesty France, qui l'explique très clairement, avec un appel, alors ça, je peux quand même en dire un mot, c'est pas trop dans nos habitudes d'en parler à la radio, mais un appel à dons financiers pour cette campagne du traité sur le commerce des armes, parce que bon, il est expliqué qu'effectivement, à l'heure actuelle, il y a des représentants d'Amnesty France, entre autres, on n'est pas les seuls, bien sûr, mais qui vont...
des trois associations, qui vont, CFD, voilà, Oxfam, Femmes.
Qui vont à New York, à l'ONU, pour discuter en amont de ce qui va se discuter au mois de juillet. Et bien sûr, Amnesty, ses finances ne sont pas extensibles à l'infini. Et je veux dire, Garrigos, la présidente, rappelle qu'une semaine à New York coûte environ 2 000 euros pour un représentant d'Amnesty France et que donc on a besoin d'argent. Donc si vous avez un petit peu la possibilité, vous pouvez aussi nous aider financièrement. Sachez que cet argent-là, effectivement, sert à... Comment dire, c'est de l'anti-argent contre les armes, si on peut dire. Voilà, voilà. C'est exactement ça.
Et juste pour compléter la série... on pense qu'il y a 10% des exportations d'armes de la Fédération de Russie qui seraient actuellement destinées à ce pays.
Donc, c'est étonnant.
Voilà, il y a des missiles, des lance-missiles.
Enfin, ça, au royaume des trafiquants, je veux dire, la France n'est pas mal placée non plus, de toute façon. On n'a pas de leçon à donner à personne.
Non, tout à fait, pas du tout. Mais on peut dire aussi que le fait qu'il n'y ait pas ce traité, qu'il n'y ait pas cette surveillance des ventes d'armes, eh ben, qui est-ce qui se glisse dans la chaîne aux endroits les plus faciles ? Eh ben, effectivement, ça va être tout ce qui est clandestin, tout ce qui est trafiquant, et qui va en plus appauvrir les pays qui sont déjà eux-mêmes en situation de conflit.
Hein. C'est aussi, le trafic des armes, c'est aussi une source de... Comment dire, de... C'est une mine d'or pour la mafia, donc ça entretient des relations effectivement qui sont à l'encontre des droits fondamentaux. Ça rend inhabitable certaines régions du globe, ou du moins très difficiles. Ça engendre de fait l'afflux de réfugiés, etc. etc. Ce sont des problèmes qui s'enchaînent les uns les autres. Et après, on constate que qu'est-ce qu'on va faire de tous ces gens-là, comme disent certains politiques. Si on leur donnait aussi la possibilité qu'ils ne soient pas obligés de quitter leur pays, ils seraient les premiers contents.
Ils préféraient rester chez eux, c'est sûr.
Alors, dernier chiffre, parce que je vous en ai donné beaucoup. Je ne suis pourtant pas tellement à relayer les chiffres, mais je trouve que là, il faut quand même un peu les entendre et se rendre compte de la force des armes et de leur mauvaise force à ce niveau-là. 90% des armes issues du trafic sont au départ produites et commercialisées en toute légalité avant d'entrer dans la sphère illicite du fait des faiblesses du système. Donc, il faut absolument qu'on surveille plus. Ça ne sera sûrement pas génial tout de suite, mais ça va commencer peut-être à avoir un peu moins de dérives. Bah,
disons que tant que ce traité n'existe pas, sur un plan légal, on ne peut rien faire. Donc si on veut commencer à faire quelque chose, il faut effectivement qu'il y ait un texte coercitif. Voilà, tout à fait. Dernière référence, le film date de quelques années, mais il est toujours disponible en DVD pour ceux qui ne l'ont pas vu, qui explique très très bien ce genre de cette problème. C'est un film de cinéma avec une histoire, un scénario, etc. Mais c'est un excellent film. Il s'appelle Lord of War. Il avait été soutenu à l'époque par Amnesty. Il l'est toujours d'ailleurs.
On l'avait montré au cinéma.
Voilà. Et si vous ne l'avez pas vu, ou si vous avez envie de le revoir, il est disponible en DVD. Je crois même qu'il doit être disponible sur le site d'Amnesty. Faudrait vérifier, mais je pense.
Et si vous voulez, on peut peut-être le montrer quelque part et puis en parler avec vous, faire un petit débat. Voilà. On est toujours disponible.
Voilà, tout à fait, tout à fait. Bien, peut-être...
Allez, musique.
Une pause, peut-être.
Une pause musicale.
Ouais, moi, j'avais passé un petit blues pour faire une petite détente.
À la musique.
Your love so bad. I need your love so bad. When I lost you, baby, I lost everything I had. I'm trying to find a woman, wanna be mine alone. I'm trying to find a woman, wanna be mine alone. Not the kind of woman wanna jive and carry on. Thank you.
need you here so bad. I need you here so bad. I need you here by my side, baby. Every night, every day.
Bon, bah, je pense que les connaisseurs, ils ont reconnu. Donc, c'est un morceau de Johnny Hooker. J'ai voulu me faire un petit plaisir. Je le dis franchement. Donc,
on va tout vous dire. Ronan, il n'avait pas pensé à la radio. Il a pris juste ce qu'il avait dans sa voiture. Donc, c'est ce qu'il écoute.
Oui, mais dans ma voiture, des CD, il y en a pas mal. Donc, quand même, je vais quand même dire le titre. I Need Your Love So Bad. Donc, c'était un morceau de Johnny Hooker. Maintenant, je laisse la parole à Françoise.
Bon, ben, moi, je vais vous parler d'une soirée que nous allons avoir le 15 mai. À 19h30 au Ciné Gaumont. Cette soirée sera consacrée aux clips du marathon. Ces clips ont été faits par Stéphane Maître, le professeur d'une classe cinéma du lycée Léopold Senghor. Et donc, sa classe de seconde a fait donc des clips sur les 12K du marathon. Bien. Qu'est-ce que je veux dire? Et alors, cette soirée sera gratuite. Hein, donc, ils sont présentés en avant-première, en quelque sorte, parce qu'il y aura une autre soirée en juin. Et nous invitons donc tous nos militants à participer à cette soirée.
C'est une soirée pour nous, pour tous les gens qui sont intéressés pour les droits de l'homme. C'est
il faut
super,
venir,
ça.
Il faut venir.
Il faut quand même préciser que ces clips donc, ont été faits sous la direction de Stéphane Maître par les élèves d'une classe de seconde. Sur des fiches qui leur ont été données et sur des explications qui leur ont été données par Françoise et Edith avant le tournage, mais que le travail a été fait sous leur entière responsabilité et que le résultat, les films qui ont été réalisés sont vraiment d'excellente qualité.
C'est excellent.
Et on a été vraiment nous-mêmes très très étonnés par la qualité technique, par la maturité, par la façon dont ça a été fait.
Par l'investissement personnel.
Et puis, pour petite info, moi j'ai eu le plaisir de les présenter au lycée Saint-François, où on avait été invité à la fin du mois de mars, si ma mémoire est bonne. J'ai plus la date en tête, mais enfin bon, peu importe. On les a présentés devant l'ensemble des classes de seconde et lors d'une journée consacrée à la solidarité à laquelle Amnesty Ivrois était présente. Et donc, l'accueil a été très, très favorable de la part des jeunes. Et en disant, effectivement, ce n'est pas forcément des problèmes dont ils ont conscience ou qu'ils connaissent, mais qui les interpellent. C'est aussi un peu le commentaire que Stéphane avait fait par rapport aux élèves qui ne connaissaient pas ou peu le travail d'Amnesty et ce dont on s'occupait et qui, en fait, une fois les tournages réalisés, on dit que c'était des problèmes fondamentalement importants.
Alors, juste peut-être pour préciser, parce qu'il y a des mots, la marathon, on se croit dans des épreuves de
42 kilomètres.
Voilà, mais ce n'est pas ça. Alors, Amnesty, le marathon, c'est une fois dans l'année pendant... toute une semaine, le maximum de signatures. Et les défenseurs, c'est pendant toute l'année, on va parler des 12 personnes pour lesquelles les jeunes ont fait l'éclipse. Françoise, à toi.
Alors, je vous donne un peu des nouvelles, justement, de ces défenseurs. Eh bien, Mohammad Sadiq Kabuddin, en Iran. Bon, eh bien, le 3 mai sera la journée mondiale de la liberté de la presse. Donc, nous vous invitons à mettre encore en avant le cas de ce journaliste. Et nous rappelons au public qu'il a été condamné pour avoir écrit dans son journal Payam El Mardon Erkodarstan. Ce journal a été interdit pour 3 ans en 2004 et n'a jamais reparu depuis. Au-delà de M. Sadiq Kabuddin, c'est toute la population qui est privée du droit à l'information. Donc l'action continue par rapport à ce journaliste.
Et on en a déjà parlé il y a, je crois, un mois ou deux mois. Effectivement, c'était quelqu'un qui avait été emprisonné, qui n'avait pas de soins et pour qui on avait déjà écrit au moment du nouvel an iranien. Donc, il faut continuer.
Quant à Natalia Estemirova, en Russie, son assassinat a déterminé une enquête et on a trouvé que les officiers de police du poste de Kurchalaou étaient concernés par cet assassinat. Donc, une enquête est établie et c'est déjà un gros progrès par rapport à ce fait.
Ensuite, Natalia, c'était un défenseur des droits de l'homme.
Oui,
là, pour ceux qui ne connaissent pas trop et qui a été assassinée.
Elle était responsable de l'association Mémorial, l'association russe de défense des droits humains.
Ensuite, quand ils, et en ce qui concerne le cas de Inés Fernández Ortega et Valentina Rosendo Cantú au Mexique, bon, eh bien, il y a quand même de gros progrès de fait concernant ces dames, car l'État reconnaît finalement qu'elles ont été abusées, hein, dirons-nous.
Ça date de combien d'années, Françoise ? Dis-nous combien de temps elles ont été tenaces, combien...
Ça fait
au moins une dizaine d'années, je crois.
Oui,
vous vous rappelez la radio, elle avait fidèle, là, vous aviez une super chanson avec Mina et puis Sabine sur leur...
Oui, tout à fait, qui avait chanté.
Quand
on avait présenté au mois de décembre le début de la campagne.
Et maintenant, donc, le Sénat mexicain est sur le point d'adopter un projet de loi pour la protection des défenseurs des droits humains.
Alors là, comme, si c'est de la loi...
Comme quoi, on sert à quelque chose.
Et vous pensez qu'ils ont entendu notre chanson ?
Oh, sûrement.
Principe Actif, écoutez.
Principe Actif est diffusé dans le monde entier. www.principeactif.net. N'importe où dans le monde, on peut nous écouter. Bonjour à la planète entière.
Bonjour.
Ensuite, en Inde, Kartam Yoga. Bon, eh bien, avoir une audience les 23 et 24 avril. Donc, c'est sous peu. Donc, on continue à envoyer des pétitions et des messages de solidarité. Alors, maintenant, je vais vous laisser parler Ronan au sujet du cas d'Halil Savda, en Turquie.
Ah, ça serait peut-être une bonne nouvelle, Ronan ?
Oui, une bonne nouvelle.
Vas-y.
Donc, le vendredi 13 avril 2012, Halil Savda a été libéré sous condition, près de 2 mois avant la fin de sa peine. Ce défenseur des objecteurs de conscience a été condamné à 100 jours de prison pour avoir provoqué l'hostilité du public envers le service militaire. Il devra se soumettre à un régime de liberté conditionnelle jusqu'à la fin de sa peine, prévu le 3 juin, mais désormais chez lui. Donc, je vais en profiter pour vous lire une lettre donc qu'il écrit, justement, quelques jours avant sa libération.
Conditionnelle.
Oui, parce que...
Oui, tout à fait.
Libération conditionnelle.
Conditionnelle, tout à fait.
Vous avez bien entendu pourquoi il est emprisonné ? Objecteur
de conscience.
Voilà.
Donc, je vais vous lire une lettre qu'il a écrite, donc, quelques jours avant sa libération. Donc, il a été arrêté le 24 février 2012. Donc, Halil Savda nous écrit depuis sa cellule. Dans cette lettre, il partage ses réflexions de prisonnier d'opinion, sa gratitude pour les marques de soutien et de mobilisation et nous invite à continuer de soutenir la lutte pour la liberté d'expression en Turquie. Halil Savda nous écrit depuis sa cellule. Je me répète.
Un copie-collé.
Attends, j'ai pas compris. Il était en cellule, c'est ça ?
Voilà.
Il nous a écrit, c'est vrai.
J'ai fait un mauvais copie-collé. Là. J'ai copié 2 fois. Bon. Donc, je reprends la lettre. Donc.
Allez.
Donc là, c'est Halil Savda qui parle. Je tiens à saluer tous les salariés, militants, sympathisants et bénévoles d'Amnesty International. Bien qu'ayant été privé de ma liberté pour avoir dit ne tuez pas, je vous écris avec une conscience claire que l'obscurité de la prison ne pourra m'enlever. J'ai été incarcéré le 24 février 2012 et resterai en prison jusqu'au 3 juin 2012. Donc, il demande de continuer de réclamer au ministère turc sa libération. Donc, là, maintenant, c'est lui qui parle. La vie en prison est rude, désolée, difficile, sombre. Mais de savoir que j'ai raison et que vous êtes à mes côtés m'aide à lutter pour garder ma gentillesse, mon innocence et ma conscience. Derrière ces portes de fer où le temps est gâché, même si je suis en prison, vos messages et vos lettres arrivent jusqu'à moi et c'est à chaque fois comme si nous nous retrouvions. Vos lettres, vos messages et tous vos efforts pour mettre un terme au fléau de l'article 318 qui sanctionne le fait de provoquer l'hostilité du public envers le service militaire m'apportent du courage et de la force. Depuis des mois, nous essayons de déverrouiller cette prison. Vous avez milité pour la déverrouiller et vous continuez à le faire. Vous avez publié des communiqués de presse et appelé à des actions urgentes. Vous avez récolté des signatures et rédigé des lettres. Mais la prison est toujours solidement verrouillée. Ceux qui m'y ont enfermé sont aigris. Si tel n'était pas le cas, ils entendraient des appels à la justice que vous lancez depuis des mois. Je sais qu'un jour, cette clé servira à ouvrir les verrous. Quelle que soit la qualité du gouvernement et de la justice turque, ceux-ci n'entendent pas nos voix. Notre demande de justice reste lettre morte et le détenu reste sous les verrous. La clé est entre les mains du gouvernement qui refuse de s'en servir. Je sais pourtant qu'un jour, grâce à votre lutte et à vos appels, cette clé servira à ouvrir les verrous. Je l'espère et y crois toujours. Vous devez aussi garder cet espoir. La méthode que nous employons pour faire sauter ces verrous est ardue, douce et exige de la patience. Mais il s'agit de la bonne méthode. Elle s'oppose à celle utilisée par Alexandre le Grand qui fit usage d'une épée pour défaire avec brutalité le nœud gordien. Notre démarche s'inspire plutôt de la marche du sel de Gandhi. Patiente, ardue, lente, douce, mais juste. Gandhi est parvenu à déverrouiller l'oppression. Il s'est engagé seul dans cette marche, sans se soucier de savoir qui le rejoindrait. La clé pour acquérir l'obscurité est apparue il y a près de 51 ans, avec l'histoire de ceux qui avaient porté un toast à la liberté. 51 années se sont écoulées, mais aujourd'hui la flamme de la bougie brille toujours. Et l'immense organisation que vous êtes s'efforce de faire sauter les verrous partout dans le monde. Dans la lutte pour la liberté et la justice, l'histoire d'Amnesty est importante. J'adresse mes plus sincères remerciements à vous tous qui contribuez à la liberté et à la justice. Mes frères, mes sœurs, beaucoup affirment que les violations des droits humains incitent à la haine et à la vengeance. C'est vrai. Je comprends en effet la colère que ressentent ceux dont les droits ont été violés. J'ai tenté de rester fier face aux violations dont j'étais victime. Ce que je souhaite, c'est d'abord de réaliser en moi-même le changement que j'aimerais voir dans le monde. C'est ainsi que j'ai choisi de répondre au traitement injuste que l'on m'a infligé, car je crois ces paroles de Mahatma Gandhi. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Après le chemin que j'ai parcouru jusqu'à ce jour, je comprends également Martin Luther King qui disait « L'obscurité ne chasse pas l'obscurité, seule la lumière peut se faire. » Je ne ressens pas de colère envers les juges qui m'ont condamné. Je ressens simplement une grande tristesse face aux violations que j'ai dû subir. Je ne ressens pas de colère envers les juges qui m'ont condamné, ni envers les politiques responsables du fléau de l'article 318. Je suis triste pour eux, car je sais qu'ils ne comprennent pas que la vie est sacrée. Je sais qu'ils ignorent la valeur de la liberté d'opinion et de la défense des droits. Ils ne savent pas combien il est important de pouvoir penser librement. Alors même qu'on est emprisonné, ils ne comprennent pas le sens de la libre pensée. Peut-être n'en feront-ils jamais l'expérience, et cela est un mal bien assez grand. Je rêve toujours d'une Turquie démocratique et respectueuse des droits humains. Je sais au plus profond de mon cœur que cela est possible. Vos efforts et vos implications dans cette campagne, en m'envoyant des lettres, en signant et en faisant signer des pétitions, me donnent espoir que cela est possible. La liberté et la paix sont proches.
Eh bien, moi, je vais vous lire, donc, parce que cette lettre est vraiment très émouvante.
On en rougirait presque.
Et ouais. Nous encourage vraiment à continuer. Bon, eh bien, Amnesty continue pour Halil Safda, hein, parce que, comme je le disais tout à l'heure, il a été libéré, mais sous condition quand même. Hein. Donc, voilà la lettre, la pétition qu'envoie Amnesty hein, concernant son cas. Monsieur le Premier ministre, Halil Safda, défenseur des droits humains, objecteur de conscience, est poursuivi pour le simple fait de s'être opposé publiquement au service militaire obligatoire et avoir demandé au gouvernement de reconnaître le droit à l'objection de conscience. Sous le coup d'une condamnation à 100 jours d'incarcération en vertu de l'article 318, pour avoir suscité l'hostilité de la population turque à l'égard du service militaire, il a été arrêté incarcéré du 24 février au 13 avril 2012. Nous avons accueilli avec satisfaction la mesure de liberté conditionnelle dont il a bénéficié. Néanmoins, nous vous rappelons que les poursuites engagées au titre de l'article 318 sont en violation directe de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 19 du pacte international relatif aux droits civils et politiques auquel la Turquie est État partie. L'article 318 du Code pénal turc représente une atteinte à la liberté d'expression qui permet de harceler et de condamner toute personne qui exprime librement son opinion concernant le service militaire obligatoire et demande au gouvernement de reconnaître le droit à l'objection de conscience. Nous vous demandons de garantir à Halil Safda la liberté de s'exprimer publiquement sans crainte de poursuite ou d'intimidation. Nous vous exhortons à prendre toutes les mesures nécessaires pour que l'article 318 du Code pénal turc soit abrogé et à faire en sorte que le droit à l'objection de conscience soit reconnu. Veuillez agréer, Monsieur le Premier ministre, l'expression de notre haute considération. Donc, je vous encourage encore à signer cette pétition.
Les actions du marathon des signatures sont toujours disponibles sur le site qui porte toujours le même nom, d'ailleurs, jusqu'à la fin de l'année. C'est www.marathondessignatures, tout attaché, signature au pluriel, bien sûr, .com. Vous pouvez toujours y aller, c'est toujours disponible, même si l'action immédiate est terminée. Les signatures sont toujours à votre disposition.
Et encore plus simple, vous venez le 15 mai à 19h30 au Ciné Zénith et on aura les pétitions et en plus on vous dira où en sont tous ces défenseurs parce qu'on les suit sur toute l'année et on continue à les aider et à faire qu'eux se sentent soutenus, hein, comme la lettre d'Halil Safda.
Disons que les films qui ont été réalisés par les élèves les rendent tous ces 12 cas extrêmement vivants, puisqu'effectivement, c'est une espèce d'incarnation très réussie de ces gens-là. Voilà.
Que pensez-vous d'une petite pause après?
Oui, absolument.
On peut faire une pause.
take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, 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 knocking on heaven's door. Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, 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 knocking on heaven's door.
Bon, je pense que Didier va pouvoir nous présenter le titre qu'on vient d'entendre, qui fait aussi partie de ma collection de ma voiture, mais pas chanté par Bob Dylan.
Mais c'est mon disque, c'est pas le tien. Donc c'est
qu'est-ce qui se passe dans les
c'est
voitures?
C'est Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door. C'est un morceau très très connu, hein, qui va être tiré d'un film dont j'ai oublié le nom, vous m'excuserez. Un petit mot sur Bob Dylan, il y a un triple CD qui est en vente sur le site d'Amnesty et qu'il faut absolument acheter, qui est une compilation de 70 morceaux de Bob Dylan repris par un tas de musiciens à travers le monde.
Un tas de super musiciens.
Ouais, mais un tas de musiciens, c'est des bons musiciens.
Oui, c'est ça. Ça n'avait rien de péjoratif. Et qui a été réalisé par Amnesty.
T'es pas branché, toi?
Non, ça va.
Qui a été réalisé par Amnesty USA et qui est sorti là au début de l'année, en février.
Une multitude.
Et il a été ce travail-là, dont Bob Dylan, qui a écrit une chanson exprès pour ce disque et qui la chante. Donc les autres chansons étant des reprises faites par d'autres de ces chansons. Et qu'est-ce que je voulais dire? Il a été fait, pour le 50e anniversaire d'Amnesty qui a eu lieu l'an dernier. Et c'est un travail qui a été fait donc par Amnesty USA. Alors, donc n'hésitez pas à l'acheter. Il est en vente sur la boutique en ligne d'Amnesty.
Ouais, et puis nous, on en a même. Je ne peux pas le dire.
On en a, oui.
On en a, mais pas assez.
Pas assez. Mais ouais. Alors, vous rendez compte, 4 CD, combien de titres, combien d'émissions? Oh là
attends,
là
c'est 4 ou 3? 3 CD.
3, c'est 3 CD.
Ah, c'est 3.
C'est 3. Voilà. Je crois qu'il y a 70 chansons.
Je crois que Bob Dylan, vous allez en entendre
vous
jusqu'à
l'aimez.
La fin de l'année.
Et bien sûr, il faut acheter le disque. Hein, surtout, on sait bien qu'il ne faut pas le pirater parce que c'est
bah
pas,
non, parce
c'est
que
pas
c'est
sympa.
Pour Amnesty,
voilà,
c'est pareil.
Tous les droits sont bien sûr...
Quel mot tu as utilisé là,
pirater? Oui. Tous les droits sont reversés, bien sûr, en soutien à Amnesty USA, donc à Amnesty tout court. Et donc, effectivement, il faut y participer. Voilà, n'hésitez pas.
Mais parce que nous, USA, tout ça, on s'en fout. C'est pour nous, c'est pour tout le mouvement Amnesty mondial. Voilà. C'est ça qui est intéressant.
Amnesty, il faut quand même le rappeler, hein, 3 millions de personnes, 70 sections au bas mot, etc. Enfin, c'est... Bon, etc. Nous allons revenir après Bob Dylan et les États-Unis. Nous allons revenir à notre actualité locale. Amnesty Évreux participe à un comité de soutien, pour être plus précis, de la famille Bassane. Donc, j'en ai parlé un petit mot en introduction de l'émission. Vous en avez sans doute vu des échos dans la presse et dans les différents médias. Il en a été question aussi sur l'antenne de Principe Actif. La famille Bassane, ce sont des réfugiés, justement. Réfugiés, ça revient souvent. C'est des gens dont les droits sont de plus en plus bafoués, y compris chez nous, c'est clair. Une famille de réfugiés mongols. Qui sont de Mongolie intérieure, c'est-à-dire c'est la province de Mongolie qui appartient à la République populaire de Chine, qui fait partie de la République populaire de Chine, et qui subit, dont les ressortissants, qui ne sont pas d'origine chinoise, subissent une répression assez, assez importante de la part des autorités chinoises. Donc c'est le cas de cette famille, bon, on ne va pas vous citer, c'était mentionné dans la presse, on ne va pas vous citer les exactions dont ils ont été victimes sur place pendant des années. Ils ont décidé de fuir. Donc, il s'agit d'un couple avec deux enfants en bas âge qui sont nés en France, puisque le couple est chez nous depuis quelques années maintenant. Et leur demande d'asile de réfugiés a été rejetée par l'OFPRA. Le rejet a été confirmé par la Commission nationale des réfugiés, des demandeurs d'asile, du moins la CNDA, récemment. Et donc, ils ont fait appel. Ils sont actuellement en situation, entre guillemets, illégale. Ils ont créé un comité de défense. Et notre groupe a décidé de soutenir, considérant que, quel que soit le bien fondé des affirmations des uns et des autres, que ce soit leurs affirmations à eux en tant que victimes ou les affirmations de l'OFPRA, considérant que leur dossier était insuffisant, pour Amnesty, l'éventuel retour dans leur pays, c'est-à-dire la Mongolie intérieure en Chine, serait de toute façon synonyme d'exposition à des atteintes importantes à leurs droits fondamentaux. Donc c'est pour ça que, bien évidemment, on soutient l'action du comité. Il y a eu une action publique qui a été faite le 14 avril dernier, le samedi, on y était, avec musique, soutien, petits gâteaux, boissons, etc., qui a permis de récolter 1 000 euros, donc c'était important, et de récolter 1 000 euros en soutien financier à la famille, qui est dans une situation très précaire. Et on continue à suivre...
Avec deux petits-enfants.
Avec deux petits-enfants, ouais. Effectivement. Un de deux ans et un de quelques mois. C'est Françoise qui suit les réunions du comité pour nous, qui est la plus au courant. Donc, n'hésite pas à intervenir, Françoise.
Si je dis des bêtises, tu me reprends.
Donc, voilà. Et donc, on continue cette action, bien évidemment, en collaboration avec la LDH, avec certains partis politiques, avec le CFED, bien sûr, qui est très impliqué sur ces histoires de réfugiés, enfin, ces problèmes de réfugiés.
Ces histoires, leurs histoires, oui, l'histoire des gens. Voilà.
Et donc, j'ai proposé à Françoise qu'on lise un petit texte, parce qu'il y a Vincent Breuil ou Dubreuil, il m'excusera si j'ai...
Breuil,
voilà. Donc, il a écrit un petit texte, qui fait partie du comité, qui a écrit un petit texte à l'occasion de la journée du 14 avril dernier, et que j'ai trouvé bien écrit, tout à fait riche de sens et très, 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 très parlant. Donc on va vous le dire tous les deux. Donc Françoise, vas-y, commence.
Capitalogue. Il était des États qu'on disait d'Occident, des États démocrates, des États de droit, des États solidaires pour leurs citoyens, des États terres d'asile pour les déshérités, pour tous les dissidents des dictatures du monde.
État de droit, état de doute, dette d'éthique et de devoir, le droit s'y mime, dans un décor de théâtre. Démocrate des ondes, mais comédien avide, d'un scénario détourné, dévasté, discrédité.
Nous sommes ou serons tous déboutés, déprimés, déboutés, déportés. Que des gardiens du droit, à coups de bâton dans le dos, débarquent d'un Airbus en territoire hostile, des demandeurs d'asile à détresse dédaignée.
État de droit, état de doute. Dette d'éthique et de devoir, le droit s'y mime, dans un décor de théâtre, démocrate des ondes, mais comédien avide d'un scénario détourné, dévasté, discrédité.
Pays des droits de certains hommes, droits des traders, des dealers de junk bonds, des gladiateurs destructeurs, des réducteurs de temps, de dettes, des détenteurs d'actions, récipiendaires d'odus, d'abondants dividendes addicts aux godeldoms.
État de droit, état de doute, dette d'éthique et de devoir, le droit s'y mime dans un décor de théâtre. Démocrate des ondes, mais comédiens avides d'un scénario détourné, dévasté, discrédité.
République en déroute, délestée du passé, élite détestée, éthique à temps partiel, valeur en CDD. La solidarité est un délit, l'identité en débat, des codes de partout. Nous, domestiqués, contrôlés, débilisés derrière des écrans LED, délestés du droit de résister.
Devise abattue, descendue, débardée. Liberté, point. Égalité, point. Fraternité, point. Voilà, donc merci Vincent, c'est très beau. C'est très, voilà. Et l'action pour la famille Bassan continue, notre soutien au comité continue. Vous pouvez signer la pétition en ligne, là c'est pas sur notre site, mais sur le site de Réseau Éducation Sans Frontières, RESF. Hein, vous tapez RESF sur Google, vous allez tomber sur le site, vous allez sur la page consacrée au département de l'Eure, vous allez trouver la pétition.
RESF 27.
Voilà, l'action est toujours en cours, parce que pour l'instant, donc, le jugement étant délibéré, la famille ayant fait appel, pour l'instant.
Et on attend. Voilà. Le 26, hein, jeudi
voilà.
26.
Hein. Voilà. Ce que je sais de l'action en justice qui a eu lieu là au mois d'avril auprès du tribunal de Rouen, c'est que le juge avait dit qu'il n'avait pas la preuve comme quoi la famille Bassan était réellement mongole. donc étaient réellement sujettes à des phénomènes de répression de la part des autorités chinoises. Apparemment, les avocats ont été en mesure de fournir les documents administratifs prouvant le contraire. Donc, c'est un élément qui est à prendre en considération. On ne sait pas du tout comment ça va finir. Bien sûr que le droit d'asile est un droit de plus en plus remis en cause pour un tas de raisons malsaines par un tas de gens plus ou moins responsables à droite et à gauche. C'est toujours la peur de l'autre et la peur de l'étranger, sachant que la France a signé tous les textes sur le droit d'asile et doit s'y conformer, mais cherche par tous les moyens, effectivement, à ne pas respecter sa signature. Voilà. Donc on continuera. Amnesty a lancé une action. A lancé une action très récemment avec un site dédié justement au droit d'asile. Donc là aussi, on va vous redonner une adresse internet. N'hésitez pas à aller le consulter. Il y a un petit quiz et il y a plein d'explications sur la position d'Amnesty par rapport au droit d'asile. Et le site s'appelle www.défendonslasile.org, donc défendons L-A-S-I-L-E, défendonslasile.org. Donc n'hésitez pas à y aller. Il y a plein d'informations et il y a plein d'explications sur notre position par rapport à ça.
Voilà, ça va vous donner des éclaircissements. Ne pas écouter tout ce qu'on dit sur le droit d'asile. Ce n'est pas tout à fait ça. Et les chiffres parlent aussi, là. C'est important.
Voilà. Ensuite.
Moi, je vais partir sur le petit travail mensuel que je vais vous demander de faire.
Voilà.
Voilà.
Action urgente.
Comme tous les mois, une petite action urgente. C'est tout simple. Donc, si vous êtes intéressé, vous nous envoyez un petit mail. Tout est préparé et tout. J'ai préparé les actions. Bon. Il y a un petit mail sur le mail.
D'Amnesty, dont tu vas rappeler, tout de suite, Ronan.
C'est Ronan.
Tu as trois secondes. Trois secondes pour donner le site.
Je pense que tu as compris que j'avais un trou de mémoire.
Amnesty.evreux@gmail.com.
Voilà. Donc vous envoyez un petit message.
Vous l'envoyez aussi à Principe Actif, il nous le redonne. Mais bon.
Ouais, en disant que vous êtes intéressé par l'action, donc l'action est déjà.
Action, c'est simplement faire une lettre. Attends, il y a des gens qui doivent dire action, qu'est-ce qu'ils veulent que je fasse?
Et en plus, faire une lettre, non, c'est même pas faire une lettre, la lettre.
Elle est faite.
Elle est déjà faite.
Voilà, il faut mettre son nom en disant bah oui, moi aussi, ça me soucie ce cas-là.
Après, vous avez le choix, soit vous l'envoyez par mail ou soit par courrier.
Avec
vous
un petit timbre, voilà. Et on vous dit en plus le timbre de combien il doit être quand c'est l'étranger. C'est
tout
pas
à fait.
Facile.
Bon, l'action, on va peut-être en parler parce que c'est pas tout dire qu'il y a une action si on ne dit pas de quoi elle parle. Donc l'action de ce mois-ci, donc, en plus, elle est. Quand on dit urgente, parce qu'on vous demande de répondre, je crois, ça doit être, si ma mémoire est bonne, avant le 3 mai. Et cette action, donc, elle concerne.
Vous avez une semaine.
Elle concerne Cuba. Donc, elle concerne deux frères qui ont été arrêtés pour avoir écouté du hip-hop. Vous croyez que c'est possible?
À Cuba?
À Cuba.
Eh bien, dis donc.
Vous croyez que c'est
on
possible?
On est à Principe Actif. Le hip-hop est interdit. Non, ça ne va pas, ça.
Ah oui. Oui, le hip-hop. Donc, il y a deux frères qui purgent actuellement des peines d'emprisonnement à Cuba pour des infractions sous-entendues par des motifs politiques. Il s'agit de prisonniers d'opinion détenus uniquement pour avoir exercé pacifiquement leur droit à la liberté d'expression. Antonio Michel Lima Cruz et son frère sont incarcérés depuis le 25 décembre 2010. Ils sont membres du Conseil cubain des rapporteurs des droits humains et journalistes indépendants. Ils ont été arrêtés alors qu'ils fêtaient Noël avec des amis et des membres de leur famille chez eux dans la ville de Holguín, c'est à l'est de Cuba. Ils ont passé des chansons d'un groupe de hip-hop cubain dont les paroles dénoncent l'absence de liberté d'expression à Cuba. Ils ont également dansé dans la rue, devant leur maison, en arborant le drapeau cubain. Peu après minuit, des agents de la direction de la Sûreté de l'État et des policiers sont arrivés, accompagnés d'une quarantaine de partisans du régime. La police est entrée de force et a arrêté les deux frères. Plus tard dans la journée, elle est revenue et a arrêté leur père et leur mère, ainsi que plusieurs amis qui se trouvaient alors dans la maison familiale. Ces personnes ont été maintenues en détention pendant plusieurs jours avant d'être libérées sans avoir été inculpées. Au terme d'un procès sommaire, Antonio Michel et son frère ont été respectivement condamnés à 2 et 3 ans d'emprisonnement en mai 2011 pour outrage au symbole de la patrie et trouble à l'ordre public. Amnesty International estime que leurs condamnations sont motivées par des considérations politiques liées à l'exercice pacifique de la liberté d'expression et sont disproportionnées par rapport aux infractions qui leur sont reprochées. L'organisation les considère donc comme des prisonniers d'opinion et appelle à leur libération immédiate et inconditionnelle. Donc, ce qu'on vous demande, c'est tout simple. Donc, c'est écrire une lettre donc, pour appeler les autorités à libérer les deux frères immédiatement et sans condition, étant donné qu'il s'agit de prisonniers d'opinion, détenus uniquement pour avoir exercé de manière pacifique leur droit à la liberté d'expression. Donc, on prie instantanément de lever les restrictions illégales pesant sur la liberté d'expression, d'association et de réunion à Cuba.
Et donc, je rappelle le mail pour nous contacter. Vous envoyez vos coordonnées.
Tous ensemble.
Amnesty. Avec un Y à la fin, Amnesty, hein, c'est l'orthographe anglo-saxonne. Amnesty.evreux. gmail.com.
Et vous imaginez, c'est comme dans un pays, je ne sais pas, en France, le jour de la fête de la musique, on va dans la rue, on danse et tout, on arrête tout le monde. Quoi.
Mais dis-moi, Renan, tu parlais de liberté d'expression là, dans ton appel à l'action. Moi, je vais en parler aussi, mais bizarrement, ça ne concerne pas Cuba, ça concerne la France.
Donc, ah bon
oui, Amnesty a publié aujourd'hui, c'est tout récent, c'est l'actualité du jour, un communiqué. Amnesty International, qui s'appelle comme ça, Amnesty International épingle les discriminations envers les musulmans en Europe. Amnesty International dénonce dans un rapport d'aujourd'hui donc les discriminations envers les musulmans dans des pays européens comme la France et la Belgique et l'exploitation politique des préjugés. Dans son rapport qui se concentre sur la France, la Belgique, les Pays-Bas, l'Espagne et la Suisse, Amnesty International appelle les gouvernements européens à faire plus pour s'en prendre aux stéréotypes négatifs contre les musulmans qui attisent les discriminations, essentiellement dans l'éducation et le monde du travail. Plutôt que de riposter à ces préjugés, les partis politiques les encouragent bassement dans leur quête des voix électorales, a estimé Marco Perolini d'Amnesty. Des femmes musulmanes se voient refuser des emplois et des jeunes filles sont empêchées d'aller en classe simplement parce qu'elles portent des vêtements traditionnels, comme le foulard, a-t-il relevé. Des hommes peuvent être licenciés pour porter des barbes associées à l'islam. En France, en Belgique et aux Pays-Bas, les employeurs sont autorisés, en violation de la législation européenne, à discriminer des musulmans sous prétexte que les symboles religieux ou culturels agaceront les clients ou leurs collègues, note l'Organisation de défense des droits de l'homme. C'est nous, hein. C'est un communiqué qui émane du monde, hein. C'est pour ça que c'est libellé de cette façon-là. Donc, liberté d'expression. La législation européenne en la matière semble être inefficace, car nous observons un taux plus élevé de chômage parmi les musulmans, en particulier chez les musulmans d'origine étrangère, poursuit Monsieur Perolini. Dans son rapport intitulé « Choix et préjudice, les discriminations contre les musulmans en Europe », publié 2 jours après les résultats historiques de l'extrême droite en France, Amnesty insiste sur le fait que porter des symboles ou des vêtements religieux ou culturels fait partie du droit de la liberté d'expression. Ouais, on recoupe ce que tu disais.
Tout à fait.
L'interdiction de porter des vêtements n'est pas la bonne approche, estime l'organisation Amnesty, qui vise implicitement la France, qui a interdit depuis 1 an le port du voile intégral dans l'espace public. Une interdiction générale risque de porter préjudice à l'accès des filles à l'éducation et de violer leurs droits de liberté d'expression, poursuit Amnesty International. Nous dénonçons aussi l'accès limité fait aux musulmans pour prier, notamment en Suisse, où la population a voté en 2009 contre la construction de nouvelles mosquées, et en Catalogne, en Espagne, où certains doivent prier dehors, faute de lieux de prière adéquats. Voilà, donc comme quoi la liberté ne se porte pas bien face forcément, pas seulement là où on le croit, mais dans des pays où on pense qu'elle est à peu près préservée. Et un petit commentaire, ça c'est moi qui le dis, hein, c'est même pas dans la thèse d'Amnesty, mais moi il y a une petite chose qui m'a choqué quand j'ai écouté un petit peu le résultat des élections dimanche soir entre 2 autres occupations. J'ai entendu Marine Le Pen, pour ne pas la nommer, proclamer des valeurs de la France et parler de la France des clochers. Ce genre de choses, effectivement, me choque. La France des clochers, moi, j'ai rien contre, mais il n'y a pas que des clochers en France. Il y a aussi des minarets, il y a aussi des synagogues, il y a aussi, etc. Et il y a des gens qui ne vont nulle part, dans aucun de ces lieux-là. Donc, quand on parle de la France, on parle de la France tout court, à ma connaissance. Et quand on fait ce genre de commentaires, c'est extrêmement pernicieux. Voilà.
Tout à fait. Voilà. La vigilance doit être de mise partout. Et la tolérance.
Sur ce, on arrive à la fin de l'émission. On va rappeler notre rendez-vous important du 15 mai. 15 mai, 19h30. Ciné-Zénith.
Entrée gratuite.
Ciné-Zénith. Ex-Ciné-Zénith.
Alors, Ciné-Gaumont-Zénith. Le cinéma d'Evreux. Voilà. Il n'y en a qu'un.
Entrée gratuite pour la projection avec la présence d'Amnesty. On y sera, bien sûr.
Et des jeunes qui ont fait les clips. Voilà. De nos pétitions à signer. Les clips, tous les militants ensemble.
Les clips réalisés sur les 12 cas, je dis bien, du marathon des signatures. C'est un travail remarquable. Surtout une soirée à ne pas manquer.
Voilà, invitez les jeunes, les moins jeunes. Faites venir vos voisins. Parlez-leur de la des droits de l'homme.
Et surtout, n'oubliez pas le mardi 29... c'est le 29 mai, je crois.
Le 29 mai, mardi. Qu'est-ce qui se passe à la fin du mois? Ben, on revient.
C'est notre prochaine émission mensuelle.
Voilà. Peut-être sur, pas les mêmes, peut-être
sur
les autres.
Principe actif. Sur
Mais
ça,
on sera là.
On va céder la place. Donc, c'est la suite.
Au revoir.
Okay, allez.
À bientôt.
Bonne soirée à tous.
À bientôt.